L'été dernier, j'ai passé pas mal de temps en mer et j'ai été fascinée par les oiseaux marins. C'est vraiment tout un spectacle. Les fous plongent dans l'eau, les pélicans volent en rase-motte, les mouettes jettent les moules sur les digues pour les casser et les manger. Vraiment, je ne pouvais pas m'en lasser. Donc, dans cet épisode, je vous propose un filage des plus spectaculaires représentations. Et je ne suis pas la seule pour le faire, je suis avec Cléora. Cléora, c'est notre Papagano, notre amoureux des oiseaux. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas encore, allez écouter ses chroniques sur les volatiles, vous comprendrez pourquoi et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Voilà donc un dossier à quatre mains, à défaut de deux plumes, qui fera, on l'espère, la joie de nos auditeurs d'aujourd'hui. Nous sommes le 27 mars de l'an 2024, vous êtes sur Podcast Science en l'épisode 507 et bienvenue.
Du coup, c'est moi qui ferai maître des cérémonies ce soir, Johan. Et donc, nous avons trois personnes aujourd'hui autour de cette table virtuelle. Nous avons Cléora, notre ornithophile depuis la Normandie.
Ornithophile, c'est ça. Salut à tous.
Et nous avons Irène, notre spécialiste des océans salés et de la mer des glaces depuis Chamonix.
Bonsoir tout le monde.
Et moi-même, Johan, spécialiste ni de la mer ni des oiseaux, donc je vais apprendre des choses ce soir depuis Paris. Voilà, et bien donc je vous laisse la parole sur ce dossier sur les oiseaux de mer.
Merci, merci. Et donc, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'ornithologie marine, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, ça étudie les oiseaux qui, quote, dépendent de la mer pour leur subsistance. Fermez la quote. On dit comme ça en français, je ne sais plus. Enfin bref. La situation, évidemment, est plus complexe que la définition, on s'en serait douté. Parce que beaucoup d'espèces alternent entre un mode de vie terrestre, en période de reproduction, et une existence marine pour le reste. Et il y a même des espèces qui sont généralement considérées comme marines, qui ne le sont que de manière très ponctuelle, voire pas du tout, et qui passent l'essentiel de leur vie à l'intérieur des terres, et on en reparlera.
Oui, parce que par exemple, on a les mouettes rieuses, qui sont très communes des côtes asiatiques et européennes, donc, et qui peuvent se nicher et se nourrir loin dans les terres. Et pourraient même théoriquement uniquement se nourrir, se loger en campagne même. Si vous êtes en Europe, normalement, vous avez déjà même rencontré des mouettes en pleine campagne. Opportunistes, elles savent en plus fouiller dans nos détritus si ça manque de nourriture. Donc être oiseau marin ne veut donc pas dire être tout le temps en mer. Je voulais que ce soit la première espèce d'oiseau cité parce qu'elles mettent l'ambiance, elles chauffent la salle, si on peut dire. Ce n'est pas pour rien que ces mouettes sont dites rieuses. Auditivement, vous ne pouvez pas les louper. Donc ça, c'est auditivement rieuse, et en plus, visuellement, le plumage d'été de cet oiseau est un peu clownesque. Alors que son corps est très clair, sa tête est toute noire, et son bec rouge, pas loin du nez rouge. Mais être bon public, c'est tout ce qu'elle peut nous proposer de spectaculaire aujourd'hui. La mouette rieuse est un peu le dindon de la farce, si on peut dire. Si vous voulez du show, pensez au vol et au plongeon. C'est certainement ce qui est le plus impressionnant, n'est-ce pas, Irène ?
Ah oui, là, je suis entièrement d'accord. Entièrement. On va parler du fait que, au début, ce qui me fascinait le plus chez ces oiseaux marins, quand on est en mer, c'est vraiment leur capacité de vol et de plongeon. Donc, pensez, vous-même, vous allez vous baigner. Mettons, vous allez à la piscine, un plongeon du bord de la piscine, pas de problème. Mais le même plongeon d'un plongeoir haut de 20 mètres, eh ben, c'est pas pareil. On a beaucoup plus peur de se faire mal. En fait, l'eau est la même, hein, mais c'est notre vitesse qui va vous la faire sentir très, très, très durement. Alors, du coup, voir ces oiseaux qui font des plongeons vertigineux dans l'eau, c'est vraiment spectaculaire.
Et ouais, certains plongent depuis très haut dans le ciel. Tout là-haut, à 40 mètres dans le ciel, ce n'est ni un avion ni Superman, mais bien un oiseau cette fois-ci. Je vous présente le footbassin. Ouais, son cri aussi rend un peu fou, surtout quand souvent ils sont en groupe et qu'ils font un boucan d'enfer. Avec ses yeux rapprochés qui semblent louchés, le foudbassant est tout blanc, avec les bouts des ailes noires, avec une tache jaune sur la tête, comme si on l'avait éclaté un œuf sur le crâne. Et de tout là-haut, le foudbassant repère ses proies sous l'océan, juste par la simple vue.
Oui, et ça c'est aussi fascinant. Donc, repérer ses proies par la vision, de nombreuses espèces le font également. On peut citer les pétrels, par exemple, qui sont particulièrement attirés par des objets flottants rouges ou oranges qui reflètent la teinte de leur proie favorite, comme les crustacés. Les fous, eux, possèdent une zone de vision binoculaire qui est située dans l'axe du bec, qui est très adaptée à la localisation et à la poursuite visuelle des proies, comme d'ailleurs c'est le cas chez les puffins des Anglais. Donc les yeux des foudbassants sont disposés de telle manière qu'il peut voir vers l'avant et déterminer ainsi la profondeur de ses proies. Les oiseaux marins, on ne pense pas qu'ils disposent d'un système de sonar, c'est-à-dire la diffusion d'ondes acoustiques dont la réfraction permettrait de sonder l'environnement immédiat et de détecter d'éventuelles proies. L'utilisation de l'odorat étant peu probable sous l'eau, c'est bien la vue qui semble le moyen le plus utilisé par les oiseaux marins plongeurs pour se repérer. Et la taille relativement importante de leurs globes oculaires, ainsi que les nombreux capteurs de lumière disposés sur leur rétine, corroborent bien cette hypothèse. Et aussi, grâce à une capacité d'élargissement et de contraction de leurs pupilles beaucoup plus importante que la moyenne, jusqu'à 300 fois chez le manchot royal, un record chez les oiseaux, les manchots, donc par exemple, s'accommodent rapidement des brusques changements d'intensité lumineuse entre la clarté de la surface et la pénombre des profondeurs. Ils possèdent aussi également un type de pigment très particulier sur leur rétine, suggérant une acuité visuelle particulièrement bonne dans les parties vertes et bleues du spectre lumineux, et probablement aussi dans l'ultraviolet, qui sont les longueurs d'onde qui pénètrent le plus profond dans les océans.
Et pendant qu'on parle d'œil et de vision, notre foudbassant, justement, qui fait toujours le show à 40 mètres de haut, scrutant l'océan. Après avoir repéré un banc de poissons, il plonge en piqué à plus de 100 km par heure. Son corps est en forme d'ogive, en forme de fusée. Quand il plonge, il plaque alors ses ailes contre son corps pour rentrer dans l'eau comme une flèche, avec une forme la plus aérodynamique possible. Clairement, à cette vitesse-là, donc, il ne vaut mieux pas faire un plat ventre. Pour amortir le choc, il dispose d'un réseau de poches d'air sous la peau, et aussi une mâchoire étanche et un bec sans narines. Le choc du plongeon est tel que l'onde de choc créée assomme les poissons, carrément. Arrivé sous l'eau, le fou n'attrape pas tout de suite poisson, hein, mais durant la seconde phase de l'immersion, lorsqu'il remonte vers leur surface en se propulsant à l'aide de ses ailes et de ses pattes palmées. Le fou n'a plus qu'à les avaler, avant même de regagner la surface. Il remonte donc toujours le bec vide, ce qui lui a valu cette appellation de « fou » par les pêcheurs qui l'observèrent.
Ouais, j'espère que vous avez déjà vu des fous qui plongent dans l'eau, parce que c'est vraiment, mais vraiment impressionnant. C'est vraiment spectaculaire. Donc, on continue et on va passer au manchot, lui qui a une pupille digne des meilleures technologies, ou donc, comme on le disait Cléora, le foudbassant qui n'a rien à envier des avions de chasse, parce que lui, au moins, quand il va dans l'eau, eh ben, il en ressort. Voilà. Et donc, avoir la majeure partie de son existence en mer, ça exige donc des adaptations spécifiques qui ont été acquises au cours de l'évolution. Mais comme les oiseaux marins ne peuvent pas assurer leur descendance en pleine mer, cette contrainte majeure de leur existence les rattache invariablement au monde des terriens. Donc, en fait, beaucoup d'oiseaux marins, comme les albatros, les frégates, les fous, les manchots et les pingouins, évoluent donc entre ces deux mondes, solides et liquides, avec diverses stratégies d'adaptation dont nous allons aborder quelques aspects.
Solide, je rajouterais même gazeux, car parmi les oiseaux marins, on a les plus grands planeurs, utilisant les courants d'air tels des experts. Ça, c'est le cri d'une frégate. Les frégates, qu'on vient d'entendre et qu'on a déjà évoqué sur Podcast Science en l'épisode 448 avec moi-même, sont comme des gros avions planeurs, parcourant aisément 400 km par jour, un Paris-Strasbourg. Elles passent la majorité de leur vie dans les airs, jusqu'à même dormir en plein air. Mais littéralement, puisqu'elles planent pendant qu'une moitié de leur cerveau dort. On appelle ça d'ailleurs un sommeil unihémisphérique.
Ouais, ça aussi, c'était super intéressant quand on a évoqué le sommeil des oiseaux. Donc oui, ces frégates, il paraît qu'elles se posent jamais en fait. Elles se posent jamais sur la mer en fait. Ou elles sont un petit peu sur terre, ou elles volent. C'est quand même incroyable. Mais en fait, les frégates, ce ne sont pas les seuls oiseaux marins experts du monde aérien. Je vous présente l'Unix, l'excellent et très connu Albatros. En fait, certains albatros ont des pointes journalières, tenez-vous bien, de 950 km, à peu près la distance Lille-Marseille, tous les jours, quoi. Ils peuvent parcourir jusqu'à 26 000 km par mois.
Et pour de telles performances spectaculaires, ces oiseaux ont un corps adapté au vol. Les frégates, par exemple, ont une envergure de 2,50 m. 2,50 m hein, pour un oiseau, pour un poids n'excédant pas 1,5 kg. Donc, possédant en gros des grandes ailes pour un petit poids. Donc possédant la plus faible charge à l'air de tous les oiseaux. En gros, donc la charge à l'air, c'est des grosses ailes, encore une fois, pour un corps léger. Et du coup, un corps facile à porter juste par l'air. Et pour que l'oiseau soit le plus léger possible, tout est optimisé jusqu'aux organes. On a par exemple les organes reproducteurs qui s'atrophient et même carrément la vessie qui disparaît. Mais encore, l'oiseau a plein de sacs d'air. J'oserais même dire qu'il est un peu comme un ballon de baudruche en vie.
Alors, comment ça marche? Eh ben, en fait, chez les oiseaux marins et chez de nombreux oiseaux, on va dire, les poumons sont ramifiés en un système complexe de sacs aériens qui se répand partout dans le corps, y compris dans certains os, notamment l'humérus, le sternum, bassin et fémur, donc les gros os, mais aussi dans les muscles pectoraux. Et la fonction de ces sacs, elle est multiple. Hein. Elle est de faciliter les échanges d'oxygène et de gaz carbonique avec la circulation sanguine, notamment quand l'oiseau vole à hautes altitudes où l'oxygène se raréfie. Mais aussi, ils fonctionnent comme des systèmes de réfrigération, parce que c'est pour contrer le métabolisme élevé de ces oiseaux lorsqu'ils volent. Et oui, donc vous avez bien entendu, les sacs aériens sont connectés aux poumons et vont jusque dans certains os de l'oiseau. On dit alors que ces os sont pneumatisés. La partie centrale est donc creuse et remplie d'air, en particulier donc ceux des ailes. D'une manière générale, ce degré d'évidement des os augmente avec la taille, et c'est le cas par exemple de ces pélicans qui est tout à fait spectaculaire à cet égard. Madame, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le plus imposant. On a nommé le pélican. Bon, lui aussi, il a un cri qui n'est pas très, très sexy. Hein. Mais bon. Alors, avec un poids, enfin pour nous humains, on va dire, avec un poids qui peut atteindre 11 kg et une envergure de l'ordre de 3 mètres, il compte parmi les oiseaux volants les plus imposants. Et étant donné leur volume, ils devraient théoriquement peser bien plus lourd, mais le poids de leur squelette contribue à moins de 10% du poids total. Parallèlement à l'évidement de nombreux os, la faible épaisseur du tissu osseux de la boîte crânienne, très volumineuse chez les pélicans, contribue aussi à diminuer la masse de ces individus.
Et petite anecdote concernant notre pélican, c'est que c'est un oiseau plongeur, comme le footbassin qu'on a vu précédemment. Bon, il ne plonge pas d'aussi haut, hein, mais quand même, un si gros truc qui vole en train de plonger, c'est quand même impressionnant. Après, il va pas bien loin sous l'eau, juste quoi mettre une grande lampée avec son bec de quoi prendre plein de poissons. Et avec toutes ces cascades, pour un oiseau si imposant, on pourrait même se poser la question, comment tout ça tient en fait avec des eaux creux, des eaux pneumatisées? Comment ça se fait que les eaux ne cassent pas, Irène?
Eh bien, je vais vous dire... Eh ben, pour renforcer leur résistance, ces os creux, ils sont constitués avec à l'intérieur une charpente complexe dont la structure évoque vraiment des croisillons. Et donc, cette adaptation des os, elle a pour effet d'alléger un maximum les individus et de faciliter donc leur vol. Et de ce fait, le squelette de l'oiseau est donc très, très léger. Pour comparer, sa contribution au poids des oiseaux est inférieure de moitié à celle des mammifères.
Et que les oiseaux, en fait, soient si légers et si peu denses, c'est un énorme avantage donc pour planer, pour aller dans les airs, mais un gros désavantage quand on veut plonger. Un comble pour des oiseaux marins. Ouais. S'ils veulent plonger, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Les gros avions que sont les albatros, avec 2,50 m d'envergure, en sont incapables, par exemple. Ils ne savent que barboter la surface de l'eau. Tout ça à cause donc de la poussée d'Archimède, donc un peu de physique. Faire couler un caillou dense, ça va, c'est facile, mais faire couler une plume, là, tout de suite, c'est plus compliqué. Et il faut appuyer dessus pour la faire couler. Il faut appliquer une force. Du coup, pour appliquer cette force et pour plonger, notre fameux fou de bassin fait le show en prenant de la hauteur, pour piquer le plus rapidement possible à descendre de 3-4 mètres de profondeur. Pour résumer, il faut être lourd et dense pour plus facilement atteindre les profondeurs, et non pas léger et creux. Du coup, les os de certains oiseaux plongeurs, comme les manchots ou les pingouins, sont alors moins creux et plus denses, comparés aux autres oiseaux marins. Alors qu'un fou de bassin peine à passer les 10 mètres de profondeur, les manchots peuvent aller à plus de 500 mètres de profondeur. À titre de comparaison, hein, 200 ou 300 mètres de profondeur, pour l'être humain, c'est déjà digne des records du monde. Tout ça juste avec des eaux plus denses.
Ouais, non mais c'est fou, 500 mètres, c'est quand même incroyable. Et donc c'est une excellente transition d'ailleurs, parce que après notre spectacle en monde aérien, on va passer donc au monde sous-marin. Donc je vous présente ici le meilleur du monde, et je parle évidemment du grand, du photogénique, du célèbre acteur de la marche de l'empereur, le manchot empereur.
Quelqu'un veut l'imiter ?
Pardon, j'étais buté.
Ah, merci, Joël.
Ouais, c'est ça, bravo. Je sais pas si tu es manchot ou empereur, mais bon, on va dire les deux. Enfin bref. Donc, les performances sous-marines des manchots n'ont pas d'équivalent chez les oiseaux, et toute sa physiologie est optimisée pour la plongée, pour une meilleure apnée et pour limiter les pertes de chaleur. Des apnées qui non seulement peuvent descendre jusqu'à 500 mètres, mais certaines de ces apnées peuvent aller jusqu'à 27 minutes. N'essayez même pas en rêve. Donc le degré d'autonomie en profondeur dépend entièrement de la quantité d'oxygène emmagasinée dans l'organisme avant l'immersion. Donc cet oxygène, chez le manchot, il peut être stocké de trois façons, dans les poumons et les sacs aériens, dans le sang, grâce à l'hémoglobine, comme nous, et dans les muscles, grâce à la myoglobine. Donc, chez les manchots, il y a 23 à 45% de l'oxygène qui se trouve dans le système respiratoire. Ensuite, on a 30 à 38% dans le sang, et le reste, 26 à 47% dans les muscles. Et donc, cette forte proportion d'oxygène qui est stockée dans les muscles, elle est liée à leur très forte concentration en myoglobine, qui est 30 fois supérieure à celle d'un oiseau terrestre. Donc là, c'est une adaptation bien particulière. Ceci étant dit, ces particularités qui visent à optimiser la quantité d'oxygène stockée dans l'organisme seraient vaines sans certaines adaptations destinées à en faire aussi l'économie. Par exemple, le ralentissement significatif du rythme cardiaque lors des plongées, qui réduit les dépenses et préserve les organes vitaux de l'appauvrissement en oxygène. C'est donc ce qu'on appelle la bradycardie. Lors d'immersions profondes et prolongées, le rythme cardiaque du manchot empereur passe ainsi de 73 battements par minute en surface à 57 en plongée.
Donc là déjà, on a donc des os plus denses pour le manchot, et en plus des adaptations comme quoi il peut mieux stocker l'oxygène donc dans ses muscles, dans le sang et dans ses poumons, les sacs aériens.
Ouais.
C'est un truc de fou, quoi.
Ouais, non, c'est dingue. Ouais.
Et c'est pas tout, parce que tu veux nous raconter encore un truc.
Ouais, on continue. Il existe aussi une redistribution, ça c'est quand même incroyable, une redistribution du flot sanguin dans l'organisme lors de la plongée, celui-ci irriguant essentiellement le cœur, les poumons et le cerveau. Les autres tissus de l'organisme voient ainsi leur activité réduite, ce qui permet une diminution du métabolisme et de l'oxygène consommé. Et puis, on a aussi une respiration dite anaérobie, qui est une autre adaptation remarquable, autorisant la production d'énergie par le biais de réactions chimiques qui ne nécessitent pas d'oxygène. Plusieurs espèces de manchots utilisent cette technique, leur permettant de plonger plus longtemps que ne leur accorderait leur réserve d'oxygène accumulée dans l'organisme. Chez le manchot empereur, on retourne vers lui, dont les apnées dépassent régulièrement 20 minutes, la respiration anaérobie débute après 6 à 7 minutes de plongée seulement, et elle concerne les deux tiers du temps passé sous l'eau. Toutefois, comme chez nous, il y a production d'acide lactique, qui est toxique pour l'organisme, et donc c'est un inconvénient majeur de cette stratégie. Cet acide lactique, il doit être éliminé par de longs séjours au repos en surface. Et ainsi, les oiseaux marins, plongeurs, semblent avoir trouvé une parade. Ils possèdent certains types d'enzymes capables de le neutraliser en partie.
Et on a aussi une question à la chatroom, parce que aussi profond que ça, 100 mètres de profondeur, est-ce que comment ça se passe au niveau de la pression du coup? Pourquoi le manchot il éclate pas aussi profond? T'as une idée?
Eh ben moi j'ai pas trop de réponses, mais c'est un peu comme chez nous, chez les humains, on sait pas trop bien comment on peut répondre à l'augmentation de pression. J'imagine déjà la densité des eaux est liée pour quelque chose, hein. Ouais. Mais après je suis pas sûre qu'on sache très très bien comment ils résistent à la pression exactement. Ouais.
Et ils ont des trucs spécifiques, parce que est-ce qu'ils nagent ou vraiment ils plongent et c'est juste le, ou est-ce qu'ils ont des sortes de, donc ils ont des pieds palmés, j'imagine.
Ouais.
Eh ben on va en parler justement.
Ah, justement, c'est ça. Très bien.
Voilà, excellente transition.
Oui. Parce que tout son corps donc, semble être fait pour la plongée, au manchot, mais au point aussi que ses ailes, qui jadis devaient servir à voler, sont devenues des nageoires à proprement parler, justement. Et il nage grâce à ses ailes. Donc, c'est des petits sous-marins, ils volent sous l'eau carrément. Les pingouins et les puffins aussi utilisent leurs ailes pour nager sous l'eau. Les fous de bassin aussi, des fois, pour remonter, ils utilisent leurs ailes. Ils battent des ailes sous l'eau carrément. Mais eux au moins, pingouins, puffins et fous de bassin, savent toujours voler, contrairement aux manchots. D'autres plongent, mais sans utiliser leurs ailes pour nager. Pour l'illustrer, je vous propose un second numéro catégorie plongeon. Je vous propose de présenter le grand cormoran.
Voilà, bon, lui, on dirait un peu une chèvre, hein, mais bon.
Ouais, j'allais dire, c'est encore un oiseau qui rigole, en fait, quand il crie un peu. Je leur passe, oui. Voilà, ça c'est les grands cormorans. Il y a plein d'espèces de cormorans, le cormoran épais, etc. Donc celui-ci, donc, le cormoran n'utilise pas ses ailes pour se déplacer sous l'eau, mais ses pattes palmées. Les ailes repliées sur son corps, avec son long cou, sa longue queue et ses pattes tout au bout de son corps, il se dandine sous l'eau, comme on dirait presque un gros serpent qui se propulse à gros coups de pattes. Le cormoran peut atteindre la centaine de mètres de profondeur, donc c'est clairement l'un des meilleurs plongeurs. Pourtant, il n'a pas trop des plumes adaptées. Une fois rassasié et en avoir fini de ses spectaculaires plongées, le grand cormoran se pose sur un poteau bien visible à la vue de tous, en étendant ses ailes en fait, comme s'il imitait la grande statue de Christ de Rio de Janeiro. En étendant ses ailes, il flexe, il se la pète, mais surtout il digère en augmentant la température de son corps. Et accessoirement, il sèche ses plumes aussi. Parce que, aussi bizarre que ça puisse être, hein, pour un oiseau plongeur, il n'a pas un plumage imperméable. Et pourtant, être perméable et accepter l'eau de rentrer dans son duvet, en fait, ça permet d'enlever la moindre bulle d'air entre ses plumes. Et donc, du coup, être plus dense et faciliter la plongée. C'est ça ce que ça permet, en fait, d'avoir un plumage pas très imperméable. Et là, on pourrait se dire, à l'inverse, pourquoi s'embêter à les sécher, du coup? Pourquoi un oiseau, en fait, quand il sort de l'eau, il va s'embêter à sécher ses plumes? Mmh. Et oui, Irène, tu vas pas nous parler, parce que, enfin, personnellement, quand je sors de la douche aussi, je me sèche parce que j'ai un peu froid, c'est ça?
Oui, c'est ça. Être mouillé, ça donne froid. Et donc, on a des transitions ce soir d'enfer, quand même. Parce que, donc, il faut pas avoir froid. Parce qu'ils sont comme nous, les oiseaux, ils peuvent avoir froid. Et donc, ils ont des stratégies d'adaptation. Donc, c'est un peu évident, mais les plumes jouent un rôle ici. Donc, ces plumes, elles permettent aux oiseaux de conserver leur chaleur corporelle. Et il est même probable, d'ailleurs, que cette fonction d'isolation thermique du plumage ait précédé celle du vol. Bref, je ferme la parenthèse. La fine couche d'air qui est prisonnière entre les plumes et la peau, elle assure ainsi l'isolation contre le froid. Et elle est souvent complétée par une couche de graisse sous-cutanée chez ces fameux oiseaux plongeurs comme les manchons et les pingouins. Mais il faut aussi éviter le contact direct de la peau avec l'eau, où la chaleur se diffuse, on le sait, 25 fois plus rapidement que dans l'air. Et de fait, la plupart des oiseaux, même ceux qui ne voient jamais la mer, ont un plumage plus ou moins étanche. Pas toujours étanche, on vient de le voir, mais quand même. Eh bien, c'est la position des plumes qui se recouvrent partiellement à la manière des tuiles d'un toit, leur densité et leur structure qui empêchent l'eau d'entrer en contact avec la peau. On revient chez notre manchot empereur, pas chez Johan, hein, mais chez le manchot empereur, et on dénombre jusqu'à 10 plumes par centimètre carré. Et c'est beaucoup. Et à cet effet mécanique s'ajoute le pouvoir hydrofuge de cette sécrétion huileuse dont s'enduisent les oiseaux, produite par la glande uropygienne, qui est située au niveau du croupion. Donc, lors de l'immersion, la température, on le sait, décroît avec la profondeur, la pression qui augmente réduit donc l'efficacité de la couche isolante en chassant l'eau contenue dans le plumage, et la vitesse du déplacement dans l'eau amplifie ces phénomènes de perte par convection. Et donc, une réponse astucieuse à ce problème consiste à concentrer la chaleur corporelle vers les organes essentiels, en négligeant les organes périphériques, notamment la peau, dont la température chute temporairement, diminuant aussi sensiblement la conductance thermique. Donc, on retourne un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une réorganisation du flux sanguin pour concentrer la température vers les régions vitales de l'animal. Le manchot royal, lui, est un grand adepte de cette hétérothermie régionale lors de ses plongées profondes. Donc, par le biais de ces fameux ajustements vasculaires, la redistribution du volume sanguin vers certains tissus a pour conséquence une baisse généralisée des températures de l'organisme. Seule la région thoracique, donc essentiellement le cœur et le foie, demeurent à une température constante, aux alentours de 40 degrés. Et puis, lors des périodes de retour de repos en surface, eh bien, les températures elles redeviennent normales, même en périphérie. Et donc, cette modulation de la vascularisation présente un intérêt indéniable dans la thermorégulation, mais également dans la gestion des réserves d'oxygène. Et en privilégiant la vascularisation de certains organes aux dépens d'autres, l'oxygène est économisé, rendant possible des temps d'apnée plus longs lors de plongées profondes.
Donc, on l'a bien compris, hein, les manchots sont des merveilles biologiques. Et sont un exemple d'oiseaux marins hyper adaptés, très spécifiquement pour un milieu, plus qu'un autre. Typiquement, donc, être à l'aise sous l'eau au prix de ne plus pouvoir voler pour les manchots. Un peu comme les albatros et les frégates, à l'aise dans les airs, et bien moins à l'aise, en fait, avec l'eau. Parce que ce sont comme des grands avions.
Ce qui est paradoxal, parce que ce sont des oiseaux marins. Mais
oui. Mais certains oiseaux sont capables d'être spectaculaires, donc, sur plusieurs tableaux. Mesdames, messieurs, moins connu du grand public, mais tout aussi impressionnant dans ses performances, je vous présente le puffin fuligineux. Visuellement, ça ne ressemble pas à un bébé, hein, comme on peut l'entendre. Le puffin était une mouette, mais très sombre. Donc, le puffin fuligineux, en tout cas. Tout en gris marron de la tête aux pieds. Tout en plongeant régulièrement à 70 mètres de profondeur, ils sont capables de voler et d'effectuer des migrations annuelles de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Ce sont des globe-trotteurs pour qui les distances ne semblent pas compter. Dans l'océan Pacifique, le puffin fuligineux effectue un trajet en boucle de 60 000 km entre ses quartiers de reproduction situés en Nouvelle-Zélande et ses secteurs d'hivernage en mer du Bering, au large de l'Alaska. Donc ils font vraiment tout le tour de la Terre.
Incroyable.
Un peu comme le puffin, donc un autre oiseau qui est un peu globe-trotteur, la sterne arctique, qui est une petite mouette aussi, avec des grandes ailes pointues. Est-elle aussi capable de plonger et détient le record de distance pour un oiseau qui relie chaque année les deux régions polaires au prix d'un voyage époustouflant de 70 000 km. Donc beaucoup d'oiseaux marins sont donc aussi doués que sous l'eau que dans les airs. Bon, par contre, sur Terre, hein, c'est souvent plus compliqué. Hein. Les oiseaux marins qui ont des grandes ailes et de grandes palmes peuvent facilement se brêler les pattes ou tomber d'une falaise, surtout chez les fous de bassin d'ailleurs, qui redoutent énormément les terres.
Se brûler, ça veut dire se casser les pattes, c'est ça?
Ouais, on est se brûler, c'est qu'est-ce qui s'est gagné.
Ok, ok.
C'est peut-être typiquement normand, ça j'en sais rien.
Je ne connaissais pas, j'avoue, je ne connaissais pas, mais bon.
Donc pour beaucoup d'oiseaux, de genre là, donc quand ils marchent sur Terre, c'est plutôt chaotique. C'est moins le cas pour les oiseaux qui ont des petites ailes, hein, comme les sternes, mouettes et puffins, ou pour les oiseaux barboteurs, comme les canards et les oies, où ils s'en sortent pas trop mal pour marcher. Après, ça reste assez comique hein, pour les voir marcher.
Excellent. Alors, dans tous les cas, donc leur anatomie est adaptée pour le vol et cela fait que l'oiseau a un gros popotin, un gros bassin, mais aussi de larges épaules et de longs bras pour avoir de belles et grandes ailes. Et pour développer ces grandes voiles, toute une armature de massifs et puissants muscles doit être disponible. Et de fait, les muscles totalisent jusqu'à 30% de la masse totale de l'oiseau chez certaines espèces. Messieurs, vous compterez combien comptent vos muscles dans votre poids.
Pas mal.
Les muscles pectoraux se composent d'un puissant muscle pectoral qui fait descendre l'aile et assure la portance et la propulsion de l'oiseau lors de l'abattée, et d'un muscle bien moins puissant, le supracoracoïde, qui remonte l'aile.
Donc voler, et surtout s'envoler, est donc très coûteux. Il faut déployer toute cette voile, cette armature de plumes et de muscles, pour élargir ses ailes. Notre oiseau, quand il est posé tranquillou sur l'eau, ça lui demande alors pas mal d'efforts pour s'envoler. Et des fois, bah, il a un peu la flemme. Des fois, au lieu de voler, il préfère marcher sur l'eau. Ouais, ouais, marcher sur l'eau, vous avez bien entendu. Donc en anglais, on appelle ça d'ailleurs le paddling ou alors le steaming.
Ah ouais, carrément.
C'est ce que fait régulièrement un gros canard marin pour se déplacer plus vite. Je vous présente l'aider à duvet qu'on trouve d'ailleurs pas mal du côté du Québec. Voilà, donc lui, marcher sur l'eau, il sait faire. Car bon, ouais. Se déplacer à nage, c'est bien, mais c'est lent. Hein. C'est même 5 fois plus lent que marcher sur l'eau. En fait, c'est plus une course sur l'eau, à l'aide de ses pattes palmées. Et ça se fait malgré tout en battant des ailes, pour garder son corps hors de l'eau. Et c'est cette même technique qui est utilisée par les oiseaux barboteurs qui décollent à la surface en fait, de l'eau pour s'envoler. Si vous avez déjà vu des oiseaux s'envoler à partir de la surface de l'eau. Mais pour notre grand canard, notre gros canard marin plutôt, l'aider à duvet, c'est surtout pour éviter les grosses vagues et de boire la tasse.
Ah, d'accord. Ouais.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez essayé de boire l'eau de mer, mais c'est vachement très salé. Hein. Comment ça se passe pour les oiseaux marins pour éliminer tout sel qu'ils environnent?
Et oui, parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Nous, on peut volontairement éviter de boire de l'eau de mer. Et puis, on sait très bien que même si on est sur un radeau, c'est très malvenu de boire de l'eau de mer. Mais alors, comment ils font ces oiseaux? Parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Eh bien, ils ont ce qu'on appelle des glandes à sel, justement, dont le but, le rôle est d'évacuer tout ce sel. Alors, Topo en avait déjà parlé dans un podcast, hein, le 325, sur les adaptations écologiques. Je répète un tout petit peu brièvement ce qu'il nous avait expliqué, parce que c'est quand même une adaptation remarquable, spécifique aux oiseaux et qui est indispensable pour eux. Parce que ces oiseaux marins, donc, ils ingèrent fréquemment de l'eau de mer. Et donc, pour éliminer le sel, ils possèdent des glandes spéciales qui sont situées dans le crâne, près des orbites plus exactement, qui leur permettent d'excréter les excès d'apport de sodium et de potassium, de façon donc à maintenir l'équilibre salin dans le sang. Et donc, contrairement au rein, ces glandes, elles fonctionnent de manière discontinue. Notre rein, lui, il filtre continuellement le sang dans notre organisme. Ce n'est pas le cas chez les oiseaux. Et leur fonctionnement est finalement relativement simple. Ce sont des jonctions entre les cellules qui empêchent le passage de l'eau, mais qui autorisent le transfert des ions sodium et potassium, depuis le sang vers la cavité, donc des tubules hein, qui composent les glandes. Et donc, cette solution hypersaline qui en résulte, elle va s'écouler par les narines directement pour finalement atteindre la pointe du bec. Ce qui donne souvent d'ailleurs l'impression que ces très beaux oiseaux marins ont souvent la goutte au nez. Voilà. Et donc, on peut quand même noter qu'il y a des glandes quand même similaires chez certains reptiles marins comme les tortues et les iguanes.
Voilà. Donc en gros, c'est une sorte de filtre. Bon, ils boivent l'eau de mer et puis c'est un filtre pour enlever le sel, en gros. Ouais. Et donc, c'est par les narines que s'évacue ce liquide hyper salé. Mais c'est aussi par les narines, comme chez nous mammifères, que l'oiseau capte les odeurs. L'odorat passe aussi par là. Alors, on pourrait se demander s'ils sentent quelque chose de salé continuellement. Ça, j'en sais trop rien. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que les oiseaux marins ont un odorat très développé pour à la fois trouver leur nourriture et aussi pour trouver leur progéniture parmi tous leurs groupes, en fait, d'oiseaux
leur colonie,
pour retrouver leur nid.
Ouais, ouais.
Ça, c'est tout récent comme recherche sur l'odorat sur les oiseaux marins. Et donc, c'est notre dernier numéro de spectacle. On va mettre, par exemple, au milieu de l'océan, sur un radeau, quelque chose qui sent très fort, caché sous un drap, et regarder ce qui se passe, s'il y a un oiseau qui arrive ou pas. Donc, si c'est l'huile de moteur, qu'on a déjà utilisée dans un article, qu'on dépose donc sous un drap, évidemment, ça attirera personne, aucun oiseau. Mais si vous disposez, en fait, du thon, là, tout de suite, vous verrez se pointer certaines espèces, mais pas n'importe lesquelles. Les puffins et les pétrels. Clairement, les oiseaux marins, donc, ont du nez pour trouver leur nourriture au gré du vent. Et ce n'est que récemment qu'on le démontre réellement, encore une fois. Et si vous mettez en fait du riz soufflé, ou quelque chose plus transformé par l'être humain, voilà que débarquent alors des goélands, plus que des oiseaux comme les puffins et les pétrels. Et eux, les goélands, vous les connaissez très bien.
Et donc, pour finir sur ces nouvelles découvertes sur ces capacités des oiseaux à détecter donc de la nourriture et à sentir, eh ben il y a des espèces comme le prion bleu ou le prion de la désolation ou le paphin fuligineux. Qui sont particulièrement sensibles à certains composés, notamment, par exemple, aux émissions de sulfure de diméthyle qui sont utilisées pour repérer et diriger les oiseaux vers leur zone d'alimentation. Et donc, une fois sur place, ils ont une recherche encore plus affinée. Ils hublent les moindres senteurs et permettent ainsi aux oiseaux de remonter aux sources d'émission de ces odeurs et finalement à leur proie. Et donc, ce fameux sulfure de diméthyle, c'est une molécule qui fait partie de l'odeur typique de l'air marin qu'on sent systématiquement en bord de mer. Bon, d'accord, vous savez pas que vous sentez ça, mais faites-nous confiance. Donc, il y a d'autres molécules, hein, comme la pyrazine ou le triméthylamine. Donc, on a un groupe de molécules ici qui sont en fait des molécules qui sont associées à l'activité du plancton à la surface de l'océan. Donc, c'est l'activité du plancton le métabolisme du plancton qui va produire ces molécules que sentent les oiseaux et donc qui leur permettent aux oiseaux d'aller chercher le plancton à la surface de l'océan. La consommation de ces algues du phytoplancton, par exemple par les organismes du zooplancton, va induire la libération dans l'air de ces molécules dans des concentrations qui sont donc d'autant plus importantes que l'activité du plancton est intense. Et ainsi, l'air présente parfois une désagréable odeur d'œuf ou de poisson pourri. Voilà, vous aimez ou vous aimez pas, mais en tout cas pour les oiseaux, c'est un vrai régal parce qu'ils aiment ça et ils sont capables de détecter ces effluves à des distances de l'ordre de la centaine, voire du millier de kilomètres. Incroyable. Et donc, ils sont particulièrement productifs en raison de leur faible profondeur. Qu'est-ce que je voulais dire ici? J'ai perdu ma phrase. Particulièrement productifs en raison de leur faible profondeur, les plateaux continentaux ou les zones qui sont traversées par des montagnes sous-marines diffusent abondamment ces molécules et qui créent ainsi un paysage olfactif où les oiseaux marins ont leur repère et créent encore une fois un spectacle ahurissant pour nous humbles humains.
Ouais, ce que tu veux dire, Naïs, c'est parce que, en fonction de la concentration de la molécule, ça fait plus comme un paysage où il y a des grosses montagnes ou des trucs comme ça. Ouais, j'imagine plus comme ça.
C'est quand même incroyable. Je pense que, comme tu dis, c'est quand même une recherche assez récente sur les capacités d'odorat des oiseaux.
Ouais, ça, c'est tout récent.
Voilà. Et ben, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre dossier.
Est-ce que tu as appris des trucs, Joanne?
Oui, j'ai appris des trucs. Et alors j'avais d'autres questions aussi à un moment. Au début, je voulais poser à quelle profondeur il plongeait. Du coup, ça vous avez répondu plus tard. Et après, sur les évolutions des personnages, donc des oiseaux, Je crois que j'ai aussi eu ma
réponse. En fait, il y a plein d'adaptations. C'est assez fascinant. On a choisi quelques points particuliers, mais c'est quand même fascinant la capacité des oiseaux. Les adaptations des oiseaux marins, c'est la façon qu'ils ont de vivre en colonie, par exemple, par rapport aux oiseaux terriens qui ont plutôt tendance à être dans leur nid isolé. C'est pas pour rien. Des choses comme ça qui sont super intéressantes, je trouve.
Par exemple, si vous voulez voir une grande colonie de fous de bassin, en France, on n'en a qu'une, il me semble, qui est au nord de la Bretagne, ou dans les petites îles. Je crois que ça, on appelle ça les sept îles, un truc comme ça.
Ah oui.
C'est la seule de France, en tout cas la seule de France hexagonale.
D'accord.
Je vois aussi que dans le chatroom, on parle de goéland et de mouette. C'est quoi la différence? Donc c'est la même espèce. Enfin, c'est pas la même espèce. C'est la même famille. C'est la famille des laridés. Donc les mouettes, c'est des petites mouettes qui ont souvent en pérenne nuptiale la tête noire, les mouettrieuses. Les goélands, c'est des oiseaux un peu plus massifs avec le bec jaune et un point rouge dessus.
Ouais, les goélands, ils sont généralement plus gros quoi, que les mouettes.
Ouais, c'est un peu plus impressionnant.
Ouais, d'accord.
Donc ça, ce sont les laridés, et pour les différencier des autres oiseaux, la plupart des autres oiseaux qu'on a cités, donc pétrels, puffins, etc., pour les différencier, souvent, c'est parce qu'au niveau du bec, on a des sortes de tubes qu'on n'a pas chez les laridés.
D'accord. Et à la place des tubes, ils ont quoi, en fait
Ils ont pas, par exemple, les goélands, ils n'ont pas de tubes.
Ils n'ont pas de tubes du tout, quoi.
Ils ont juste des trous, puis voilà.
D'accord.
Ils ont juste des narines.
D'accord.
On parle de martins pêcheurs aussi, mais là... On est au-delà des oiseaux marins, là.
Et oui.
Ah, une autre question. Comment a-t-on pu étudier les caractéristiques physiologiques des manchots à de telles profondeurs?
On leur a mis des capteurs.
Oui, j'imagine.
Bah ouais, je pense. Un peu une sonde thermique, un capteur de battement cardiaque.
Je vois pas trop autrement. Ou alors simuler la pression dans une grosse baignoire et en foutant le manchot dedans. J'imagine mal. J'imagine mal la méthodologie comme ça. Mais...
Non, on pourrait les mettre dans un caisson hyper barre. Hein, mais après, c'est compliqué parce qu'il faut... après, il faut reconstituer aussi tellement de paramètres entre la température de l'eau, la pression. Ouais, je pensais des capteurs.
Les manchots, c'est une des espèces, enfin, c'est le groupe d'espèces qui sont les plus étudiées parmi les oiseaux marins.
Ah ouais?
Ouais, on a pas mal de données dessus. Ouais. Ben justement, attends, on en a pas mal parlé quand même là.
Oui, c'est ça.
Hyper adapté oiseaux marins.
C'est vrai que j'en reviens toujours à ça, mais voir les fous de bassin plonger, ou les sternes aussi, c'est incroyable.
Les fous de bassin, c'est encore plus impressionnant parce qu'ils sont en groupe.
Ouais.
Et puis tous en même temps.
Ouais, exactement. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a des. Il y a pas longtemps, j'ai regardé un film sur la mer, justement. Il y avait une session sur les fous de bassin qui plongeaient, mais c'était incroyable.
Ouais. C'est vraiment les torpilles, ils s'arrêtent pour te
faire. Ouais, exactement. Ouais, c'est super impressionnant. Ouais. Bon, et ben voilà quoi.
On va passer à la citation. Justement, on parlait de manchot dans un caisson. La citation, c'est un peu ça.
Alors, c'est une citation, il faut vraiment y réfléchir, et je pense que chacun d'entre vous risque de l'interpréter comme vous voulez. Mais moi, ça m'a parlé, mais à vous de voir. Donc, réfléchissez bien, c'est à méditer. C'est une citation de Victor Hugo qui nous dit « L'âme est le seul oiseau qui soutienne sa cage ». Voilà, je vous répète ça. « L'âme est le seul oiseau qui soutienne sa cage ». On vous mettra ça dans les notes d'émission. Et si vous voulez la commenter pour nous, n'hésitez pas. Moi, j'ai fait mon interprétation, je vous laisse faire la vôtre.
Et je voulais aussi ajouter qu'il y avait une très chouette BD qui s'appelait Mon frère le fou. Qui est une très très belle BD d'un marin et d'un oiseau du coup. Non, d'un marin sain. Enfin, ouais, non, le marin n'a pas l'air tout à fait sain.
C'est un oxymore.
Voilà, et c'est assez chouette. C'est chez Futurapolis et ça avait été publié il y a longtemps. Je crois que je l'ai d'ailleurs. Je ne sais plus, je crois que je la retrouve. Mais c'était très sympa, ouais.
Miam, miam. Ouais, je te laisse conclure.
Alors, pour clôturer cet épisode spectacle d'oiseaux marins, sachez que tout est réalisé par des professionnels aux morphologies adaptées. Hein. Un plongeon à 100 km par heure, une respiration anaérobie, des eaux pneumatisées, ça, tout ça, c'est pas donné à tout le monde. Ne le tentez pas chez vous, s'il vous plaît. Enfin, si vous réussissez une respiration anaérobie... Vous contactez Podcast Science, on sera intéressé. En espérant que ce léger et aérien épisode vous aura plu, on retourne en sous-marin jusqu'au prochain épisode. Et en attendant, que servir la science soit votre jat.